Max est à l'étude du nightlife à Val-d'Or.
Oui, exactement. Shaker qui ouvrira à Val-d'Or. Là, imagine, tout le monde part de Val-d'Or pour aller veiller à Rouen.
Non, ça me fait de la peine. Là.
C'est, ben oui.
Il n'y a plus de nightlife à Val-d'Or. Les jeunes à cette heure vont veiller à Rouen. Et moi, ça me fait mal parce que c'est une ville que je déteste viscéralement.
Pourquoi t'es parti de Val-d'Or, Max?
Pour aller étudier.
Puis est-ce que t'aurais pu travailler là-bas?
Ben moi, j'étais sûr qu'il allait m'offrir un stage puis que j'allais retourner là-bas, puis ils l'ont pas fait. Fait qu'ils mangent de la merde.
Tabarouette, OK?
Mais t'es-tu heureux à Québec ou t'aurais aimé mieux retourner dans ton Val-d'Or natal?
Ah oui, ben oui, je suis très content, puis je lui ai dit quand je l'ai croisé.
OK, t'as parlé au propriétaire de la station, puis tu lui as dit.
Ben ouais, mais là, il est plus là.
Il est plus là, OK. Ouais.
Bon, mais aujourd'hui, je ne retournerai pas. Là.
Jamais.
Non, non.
Mais Val-d'Or, là, c'est une ville de travailleurs.
Oui,
mineurs. C'est des
mineurs. Des travailleurs mineurs, des gens qui travaillent dans les mines.
OK. Et l'âge moyen des ours là-bas, ça peut ressembler à quoi? C'est une ville qui est vieille? Parce qu'à Québec, c'est une ville qui est quand même assez vieille.
Ouais.
C'est pas une ville hyper jeune et dynamique quand tu regardes les chiffres. Là.
Non, c'est ça. C'est pas très... C'est pour que le nightlife... Je te dis, le nightlife est mort. Val-d'Or là, est passé d'une des villes qui avait dans les plus de bars par habitant au Canada à la 3e avenue qui est la rue principale. C'est mort. T'as le prospecteur qui est la bonne microbrasserie qui marche un peu. À part ça, ça sort au bâton rouge puis à la cage au sport.
Y a-tu plus de monde l'été?
Ben oui, les étudiants retournent là l'été, fait qu'il y a un petit peu plus de vie l'été.
OK.
Ouais, mais c'est ça, fait que j'ai vu un post là, que Shaker voulait ouvrir à Val-d'Or puis Rouen, mais c'est peut-être que le Shaker va repartir le nightlife.
Ben, les Abatiello, ils veulent vraiment conquérir le Québec.
Oui.
Là, fait qu'avec les Shakers, ils vont se promener un peu partout, puis j'imagine qu'ils vont se trouver les terrains aussi pour les pizzerias à Salvatore, puis tout va aller ensemble. Ça va être une association de restaurants qui vont être mis à plein de places.
Je pense qu'il y a un Salvatore qui vient d'ouvrir. Ils ont aussi la chaîne de déjeuner
OK, c'est quand
par ville.
C'est 15 degrés sur Québec. Il pleut à certains endroits et ça va être ça toute la journée. 60% de probabilité d'averse, maximum de 18. Ce soir, cette nuit, c'est nuageux avec 60% de probabilité d'averse, minimum de 13. Et demain, samedi 20 juin, ce sera généralement nuageux avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 18.
Sur la route, tout le monde est déjà en vacances. Ce matin, ça a l'air, là, personne n'est allé travailler. C'est beau, ça roule.
À Boulevard 102.1. Dans Marceau le matin, c'est vendredi et on se fait une tête sur les gros dossiers de la semaine. Voici Jacinthe Varel.
Jacinthe Varel. Salut!
Salut!
On est content de te voir. T'as-tu déjà donné ça, toi, à un monsieur, une prime fidélité? Hein? T'es en train de parler avec la blonde à Val. Avec Val, la blonde à Jeff, tantôt.
J'aurais pas ma prime.
On parlait des primes fidélité qui sont données par le gouvernement du Québec à ses employés. Si ça fait 3 ans que tu travailles pour le gouvernement du Québec et que t'as pas changé de département, on te donne un 300$. Puis si ça fait 5 ans, on te donne un 800$.
Cha-ching, l'argent facilement gagné. Hein?
Est-ce que ça facilite un degré de rétention, des montants aussi bas?
Ben c'est ce que je me suis posé comme question. Qui, tu sais, t'es tanné après un an et demi de ta job, qui dit, je vais toffer mon 3 ans, mais avoir 300$?
C'est ça. Ben c'est ce que je disais à Max. Max disait, mettons 800$ après 5 ans, c'est quand même bon, là, tu sais. Au début du printemps, t'as 800$. Oui, mais ton 800$ va se transformer en 400$, là, garçon. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec 400$? Si tu veux améliorer ta vie, je pense que t'as 400$, tu vas le laisser de côté.
Ben oui. Et si t'es pas bien dans ton travail ou t'es dans un ministère où tu te sens pas à ta place, rester 6 mois de plus pour aller chercher ton 800$, ça, qui gagne à ça, là?
Ouais.
Les contribuables paient pour ces primes-là. Ça, c'est sûr, ça ajoute au budget de nos dépenses à nous, contribuables.
Ouais.
Est-ce que ça donne vraiment un gain à l'employeur? Est-ce que ça donne vraiment un gain à l'employé même qui reste
qu'il voudrait partir? Le gouvernement dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ils n'ont plus d'argent, il faut qu'ils se trouvent d'autres moyens de financement. Christine Fréchette, qui était de passage à Québec dans les derniers jours, qui était devant la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, dit « Ah, ben vous savez, pour ce qui est du troisième lien, ça va être à péage. » Puis c'est un beau principe, le péage. On devrait l'instaurer à certains endroits parce que les véhicules électriques commencent à en avoir de plus en plus sur la route, donc ils ne paient pas de taxes sur l'essence, bien entendu. Fait qu'on pourrait peut-être instaurer des routes à péage. Attends un peu, on paye déjà ouais. pour notre nos infrastructures routières, puis tu nous en demandes encore plus. Commence ouais. à te poser la question à savoir de quelle façon tu dilapides notre argent, puis pourquoi on n'a pas de retour sur notre investissement, puis après ça, tu nous en demanderas en surplus.
Ben oui.
Quelle attitude pareille.
Hein? C'est incroyable. Quand tu dis qu'un travailleur sur quatre au Québec est un employé du gouvernement du Québec, à un moment donné, tu peux aussi te dire ma fonction publique est peut-être un peu gourmande, un peu onéreuse pour notre portefeuille, et plutôt que de chercher des revenus supplémentaires en ponctionnant dans nos portefeuilles.
Mais c'est tout le temps la même chose. Ah ouais. Comment, c'est Monique Jérôme Forget qui s'adressait à une dame en disant « Bien, je le sais là, que vous payez assez de taxes et d'impôts, madame, puis que c'est difficile. Moi aussi, là, je trouve ça difficile, comme ça, trouver ça difficile. Mais si vous voulez que vos enfants aient accès à l'eau, on n'aura pas le choix de vous taxer. »
C'est incroyable. Hein?
C'est cool, incroyable. Je suis capable de te sortir des articles. Là. La majorité des villes au Québec perdent l'euro traités à l'intérieur de leur tuyauterie.
Oui, oui, oui.
Puis toi, tu t'occupes pas de ça. Tu t'occupes du gars qui est chez eux, qui boit un verre d'eau, puis tu dis « Hey, tabarouette, t'as pris 2-3 verres d'eau aujourd'hui. Hey, tabarouette, t'as pris une douche aujourd'hui. T'as pris 2 douches. Hey, il faudrait te taxer de façon supplémentaire. »
Au moins, on peut même aller sur l'arrosage de pelouse ou bien le remplissage de piscine, là, parce qu'il y a des municipalités qui vont loin maintenant là, cet été. C'est incroyable, là, ça pop de partout au Québec, des municipalités qui interdisent carrément de même laver tu veux laver tes fenêtres extérieures de ta maison, là, ben, tu peux pas, ça prend un permis ou tu peux carrément pas, dépendamment des municipalités. Tu sont rendus fous, alors que dans nos réseaux d'aqueducs qui sont tellement vieux puis qui ont manqué d'entretien, il y a des pertes épouvantables. Notamment, on peut penser à Montréal, là, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on parlait d'avoir 40% de l'eau potable perdue dans les tuyaux d'aqueduc. Maintenant, on estime à peu près entre 25 et 30 %. C'est dur. De toute façon, imagine-toi, c'est dur de savoir un peu quelle quantité tu perds d'un tuyau. Imagine-toi, mais il en perd encore 25 à 30 %.
C'est ça. 2018, l'article que j'avais trouvé, c'est un article qui était dans la presse. C'était Montréal perdait l'équivalent de 200 piscines olympiques à chaque jour sur l'île de Montréal. Ça, c'était de l'eau qui était traitée, qu'on réinjectait dans les tuyaux puis qui se perdait en raison du fait que tout ça est vétuste. C'est hallucinant. Puis en plus, on n'est pas des spécialistes, toi et moi, mais si l'eau se trouve un chemin, elle se trouve un chemin au travers du matériel. Puis le matériel, il s'en va avec l'eau. Puis là, ça va créer un... Tu sais, le geyser qu'on a eu à Montréal, ça fait déjà quelques mois, ce fameux geyser-là, sont incapables de trouver l'origine de ce geyser-là. Ils sont pas capables d'expliquer pourquoi ça s'est passé.
C'était un bon show, par exemple. la couverture en direct à TV.
C'était malade, on a vu ça péter vers 6h40 le matin. Là.
Incroyable.
Mais moi, j'ai aimé mieux la couverture de mon petit kangourou.
Oui, il y a ça.
Oui, c'est vrai que le kangourou, les permis.
Mon petit wallaby.
Personne n'avait de permis pour le capturer, ce Moses de kangourou-là.
Mais tu sais, Jacinthe...
Personne ne s'est posé la question s'il fallait vraiment le capturer.
Ben, c'est ça.
Moi, ça aussi, ça m'a étonné.
Tu sais, Jacinthe, la plupart des gens qui ont les mêmes discussions que toi, que nous, on a, là, concernant l'argent, puis le gouvernement qui fait toujours des ponctions dans nos poches pour essayer de régler des problèmes, puis finalement, ça se règle pas. Fait que l'année d'après, ils nous en demandent encore plus. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un qui nous entend présentement décide de se lancer en politique aux prochaines élections, remporte et devient ce style de politicien-là qui demande encore plus d'argent au monde? Y a-tu une potion magique quand tu rentres au gouvernement? Là, bon, tu te mets à genoux, puis là, la première ministre là, te passe l'épée chaque bord des oreilles, puis là, elle dit là, à partir de maintenant, tu vas devenir un gauchiste. Comment ça se passe en haut?
Bien. La première chose, c'est que oui, c'est vrai que les gens qui se lancent en politique, c'est dans l'objectif d'améliorer la vie collective, d'améliorer la situation des Québécois. Si on se lance en politique au Québec, peu importe le parti, tout le monde veut améliorer les choses. Mais c'est sûr qu'à son échelle individuelle, on n'y arrive pas. Donc, ça prend du pouvoir. Donc, déjà, il faut faire partie du gouvernement. Mais l'autre chose, j'ai l'impression que une fois que tu fais partie du gouvernement, ceux qui ont réellement le pouvoir, ce sont les ministres. Et les ministres, on les enrobe, ils sont très choyés. On les gâte beaucoup. Ils ont tout d'abord un garde du corps en permanence avec eux. Le garde du corps sert aussi de chauffeur, mais son titre, parce qu'on dit toujours qu'ils ont des chauffeurs, là, ils ont des gardes du corps, mais les gardes du corps conduisent les véhicules qui permettent de transporter les ministres. Donc, les ministres jouissent de grandes conditions, de grand confort, et j'ai l'impression que ça crée tranquillement une déconnexion avec la vie réelle, avec le public. D'autant plus, on peut penser à certains ministres, mais tu sais, Pierre Fitzgibbon, par exemple, on peut penser qu'avant d'être ministre, de toute façon, il bénéficiait déjà d'une vie où il était choyé. Donc, si en plus, tu n'as pas connu la misère quand tu étais enfant, tu n'as pas connu la misère quand tu étais adulte, tu n'as pas connu ce que c'est que de choisir entre envoyer tes enfants chez le dentiste ou de payer le nouvel équipement sportif qu'ils ont besoin pour renouveler leur équipement parce qu'ils ont grandi, parce qu'il est fini, ou la nouvelle inscription dans leur sport favori, puis tu... Si tu n'as pas connu ce choix déchirant-là comme parent de dire ah, « ça va être le dentiste » ou « ça va être l'équipement » ou « ça va être Mastercard » ou « ça va être ci » puis que tu as des choix difficiles à faire, à un moment donné, quand tu arrives à ce statut-là où tu es extrêmement choyé par un généreux salaire, extrêmement choyé par des conditions et extrêmement choyé aussi par toute la classe médiatique qui s'aplaventrie un peu devant toi. Parce qu'on va se le dire, hein, si on veut les avoir à nos micros, là, les ministres, là, si on veut les avoir à nos micros, ben, faut en prendre soin quand ils viennent à nos micros.
En fait, faut essayer de trouver le juste milieu.
Ouais, le juste milieu.
L'équilibre.
C'est pas toujours facile. Il y a des stations qui envoient carrément chier les ministres. Puis à partir du moment où le ministre dit oh, « finalement, je vois là,
ben, j'irai plus.
Je me fais tout le temps envoyer chier, fait que j'irai plus. » Mais on est capable de surfer sur le positif puis le négatif tout en des fois les faisant mal paraître parce qu'ils n'ont pas de réponse aux questions.
Ouais.
Mais si tu les traites normalement, si tu les traites de façon responsable puis tu les traites de façon équitable, ils reviennent.
Ouais.
Sauf que l'accès au ministre est un peu comme l'accès à la Chambre du Canadien.
Mm-hmm.
Si tu n'es pas favorable aux Canadiens puis tu écris des papiers de marde des fois sur le Canadien, ça se peut que tu n'aies pas de Suzuki là,
ouais.
En entrevue
ouais.
One-on-one.
Oui, oui.
Fait que tu as raison, pour les grands réseaux, ça semble être ça.
Ouais. Oui, oui. On a perdu en coriacité auprès de nos ministres quand même.
Mais c'est quoi pour toi la coriacité? Parce que moi, pour moi, poser une question difficile respectueusement, c'est être coriace.
Mm-hmm. Oui, oui, mais si on se contente d'une réponse de politicien puis qu'on n'est pas capable de dire « Là, monsieur le ministre, vous venez de me sortir votre cassette. » Paul Arcand le faisait bien, qui était Morning Man numéro un à Montréal, le faisait bien à une certaine époque, dans ses années les plus fortes. Il faisait bien. Non, là, vous êtes en train de me sortir votre cassette. C'est pas ça que je veux entendre. Vous déviez du sujet. Donc, d'être... Pour moi, être coriace, c'est pas juste me poser la question difficile, c'est de ne pas se contenter de se faire
remplir.
Ouais,
c'est la relâche, je suis d'accord
avec
toi.
C'est ne pas se contenter non plus de se faire dire des aberrations, de se faire dire « Non, non, mais c'est confirmé, là, je vous le dis, c'est confirmé l'argent pour le tramway, il n'y aura pas de problème. » Alors qu'on sait très bien que les trois paliers de gouvernement se sont engagés avec un pourcentage, ils se sont pas engagés avec des montants. Ils se sont engagés avec des montants plutôt qu'avec un pourcentage. Oui, le fédéral le vient dire qu'il va payer à peu près 39 %. Le montant auquel il s'est engagé correspond en ce moment à 39 % du coût estimé en ce moment. S'il y a des dépassements de coûts, est-ce que le fédéral va garder son 39-40 %? Ouais. Donc, c'est d'aller
parce
jusqu'au
que pour
fond
moi,
des
là,
choses. Et ça rame à l'aise les politiciens.
Parce que pour moi,
réponses.
Être coriace aussi, c'est être capable de dire à quelqu'un très respectueusement « Je suis en désaccord avec vous. » Vous avez une opinion différente, je suis en désaccord avec vous. Je vais te donner un exemple.
Mais pour moi, un journaliste, t'as pas à être en accord ou en désaccord.
Non, mais là, je te parle à la radio. Ouais. Là, t'sais. Hier, j'ai interviewé Karim Elayoubi. Là. Il a essayé de me faire croire, comme Maïté Blanchette-Vézina, que le pamplemousse pouvait tuer du monde.
Mm-hmm.
Ben, j'ai dit, vous êtes un bon joueur d'équipe, vous protégez Maïté Blanchette-Vézina, mais je sais qu'au fond de vous, vous y croyez pas.
Mm-hmm.
Je passe à une autre question, mm-hmm. mais j'y avais dit, là, tu viens de me remplir.
Oui, oui. Ouais. Ben, c'est ça. Mais il faut avoir cette rigueur-là avec tous les partis. Et malheureusement, on le voit, là, les ministres bénéficient d'une couverture un peu plus souple. Et c'est normal parce que...
J'ai vraiment de la misère avec ça, moi, de bénéficier d'une couverture plus souple. Non, mais c'est vrai, je vais donner...
Jeff, pourquoi qu'on est rendu dans l'état actuel? Non, mais
je vais donner...
Trouves-tu que ça va bien au Québec?
Non, mais c'est vrai, je vais te donner l'exemple. J'entends régulièrement... Hey, les journalistes font des passe-voix à Bruno Marchand. C'est drôle, cette semaine, pour le 3,3 millions sur Québec International, puis sur les subventions culturelles, puis sur le non-fiabilité du RTC. J'ai écouté le point de presse. Il n'y a pas eu de passe-droit.
Il y a des affinités avec certains journalistes au municipal. Il y a des journalistes qui ont plus des entrevues one-on-one avec Bruno Marchand. Il y a des éditorialistes qui se permettent maintenant de faire des biographies des anciens maires qui étaient en place parce qu'ils étaient bien appréciés par la mairie.
Laissez-moi être en désaccord avec vous.
Ouais, puis c'est correct, mais que tu le veuilles ou non, la presse à l'époque était fédéraliste. Tu sais, la presse là, qu'on connaît à Montréal...
Oui, la presse est encore fédéraliste.
...se déterminait comme étant un papier fédéraliste. Donc, il n'y avait aucune neutralité. Là. Fait que c'était tout le temps plus dur pour un séparatiste de se faire entendre. Tu sais, ça existe. On peut pas nier que ça existe. Il y a des animateurs, des animatrices, des journalistes qui ont plus d'affinité avec d'autres politiciens, puis c'est bien correct. Mais une chose que tu peux avoir, puis je vais te le donner, puis je pense qu'on l'a ici à Boulevard, c'est que... bien qu'il peut y avoir une certaine amitié, en ondes, on est sur la glace, puis on pose les questions que les auditeurs se poseraient. Mais oui, il y a des stations de radio qui ont accès plus facilement aux ministres parce qu'ils sont très favorables à la coalition Avenir Québec.
Oui, puis à l'inverse, il y a des stations de radio que ce que le politicien fait, ça sera jamais bon.
Ça, là, je te le donne, mon gars. Puis tu sais quoi? Ils se font un nom avec ça en disant « Ils veulent pas venir nous voir c'est parce ça. Qu'on est trop dur avec eux autres. » Vous n'êtes pas trop dur, vous les envoyez chier une fois qu'ils sont rendus dans le char. Vous n'êtes pas capable de leur faire face. Ben, tu sais, ça, donnons-nous-le. Donnons-le à d'autres stations de radio. Donnons-le à certains journalistes. On est capable de leur jaser en face. Puis une fois que la game est finie, une fois que la game est finie, ils embarquent dans le char, puis nous autres, on est déjà passé sur un autre sujet. Si tu avais des plus et des moins à donner à des membres de l'Assemblée nationale, qui, selon toi, a bien performé cette année à l'Assemblée nationale? Tu pouvais me faire une liste des gagnants et des perdants.
Ah, bien, Youri Chassaing, qui a été finalement, qui a terminé son mandat ou qui termine son mandat comme député indépendant et fait partie des plus rigoureux, des plus cohérents aussi dans ses prises de position. On sait où il loge, il n'est pas hypocrite et il fait bien ses devoirs, il a fait un beau travail de représentation et malgré le fait qu'il soit député indépendant depuis déjà, mon Dieu, ça doit faire plus qu'un an maintenant qu'il est rendu indépendant, il réussit quand même à faire entendre sa voix, il réussit à projeter une image cohérente et ça, ben ça y vaut quand même tous les honneurs. On doit être fier de ce député qui a maintenu la ligne jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire oui. Il est intègre.
Christine Fréchette fait partie des gagnantes ou des perdantes?
Sur le plan réputationnel, sur le plan de la couverture médiatique réputationnelle, si on se fie au sondage, elle s'en sort bien. Je ne peux pas nier la réalité. La réalité, c'est que les chiffres, les sondages, la couverture médiatique, lui, relativement très favorable, compte tenu qu'elle a été ministre de l'Économie et les plus grands scandales dont on entend parler avec la Coalition Avenir Québec depuis 8 mois, ce sont des scandales notamment de subventions garrochées à gauche, à droite, avec Taïga, avec Lyon Électrique, avec Nordvolt. Et elle fait partie des ministres qui ont touché ce ministère de l'Économie, qui garoche notre argent par les fenêtres à des grandes entreprises, souvent étrangères, je vous le rappelle. Donc, des entreprises qui peuvent juste opérer ici, au Québec, à coût nul et engranger des profits à la société enregistrée en Irlande ou la société enregistrée à Monaco. Je vous le dis, fouillez. Il y en a même ici, dans la grande région de Québec, des entreprises qui ont eu énormément d'argent du gouvernement du Québec puis que l'argent, les profits sont enregistrés à Monaco, les amis. Donc, elle a laissé faire ça, mais on n'a pas des grands, grands fouilleurs. Et quand on a quelques journalistes qui fouillent ces dossiers-là, c'est mort dans l'œuf, ça s'éteint bien vite. C'est pas repris par tous les réseaux. Donc, elle s'en sort bien, malgré tout. Donc,
est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon fait partie des gagnants ou des perdants?
On parle beaucoup de lui. On a parlé de lui souvent en négatif, mais je pense qu'il fait partie des gagnants parce qu'il se maintient dans l'actualité. Il a toujours une posture cohérente aussi. Il réussit à défendre ses idées. Ouais. On l'attaque beaucoup, mais il est droit. Moi, je le vois comme un gros navire là, qui avance. Là, puis là, il y a plein de monde qui essaie de l'attaquer à gauche, à droite. Il y a des vagues. Le vent se lève. On dirait qu'il y a une tempête, mais le navire est fort. Le navire, il sait où est-ce qu'il va. Il y a une direction. Il avance.
Moi, je trouve qu'il y a plus de défauts que de qualités en tant que chef, mais c'est les plus belles qualités pour un politicien, il les a. Ouais. C'est quelqu'un qui a une droiture, puis il est cohérent du début jusqu'à la fin, même si ça peut lui nuire. Ça, faut donner ça à Paul Saint-Pierre Plamondon. Sinon, les autres chefs de parti, Éric Duhaime.
Éric
Duhaime. Gagnant ou perdant?
Ben, gagnant, il a réussi à aller chercher une alliée au sein de l'Assemblée nationale avec Maïté Blanchet-Vézina. On a longtemps spéculé. Hein? Après 2022, on se disait, est-ce qu'il va réussir à aller chercher des appuis de députés qui vont...
Est-ce qu'ils se sont concentrés sur les bonnes choses, le Parti conservateur du Québec?
Ça, c'est là où moi, j'ai des bémols. C'est sûr que l'histoire, par exemple, des boissons énergisantes, ça n'a pas aidé leur cause parce qu'ils se sont fait massacrer par la majorité des observateurs, autant les journalistes, les analystes, les chroniqueurs, que tous les partis à l'Assemblée nationale. Fait que ça a été un drôle de combat qu'ils ont choisi de faire. Quel gain il y avait à faire là-dedans, je ne le sais pas. Il y a eu quelques choix... étrange. On sent aussi qu'ils en ont pris conscience parce que là, on sent qu'ils viennent de prendre un virage un peu plus économique. On sent qu'ils recommencent à marteler les messages économiques. C'est là-dedans que le Parti conservateur est fort sur le plan économique, sur le redressement de nos finances publiques. Donc là-dessus, probablement qu'ils sont en train de faire des prises de conscience aussi. Je ne sais pas si... il y aurait avantage, le Parti conservateur du Québec, à s'entourer davantage de seniors en politique, de gens beaucoup plus expérimentés qui pourraient leur donner des bons conseils.
Est-ce qu'Éric Duhaime ou son entourage rapproché, sa garde rapprochée, j'en connais quelques-uns de sa garde rapprochée, est-ce qu'ils sont prêts à avoir une éminence grise dans la place?
C'est ça que je me demande. je me le demande parce que
nous autres, on a eu de l'info à l'interne, là, puis l'histoire des boissons énergisantes, là, même je pense que c'est quelqu'un ici qui m'a mentionné ça. L'histoire des boissons énergisantes, ça a fait en sorte qu'il y a eu un départ.
Ouais, ça a scindé beaucoup l'équipe, là, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec la façon d'aborder le sujet. Il y a les parachutés aussi. J'en ai parlé avec Karim Elayoubi hier. Puis il a dit, écoute, il dit, moi, je viens dans Chauveau parce que j'ai dit, Éric, je me représente en politique, c'est pour gagner. Dans D'Argenteuil, c'est sûr que je gagne pas. Je ferai pas une campagne pour pas gagner. Tu te situes où par rapport à ça? T'sais, moi, je suis comme entre deux, là, puis je te l'explique. Je me dis, c'est vrai que le PCQ n'a pas le choix de parachuter du monde parce que sinon, leurs meilleurs sont pas dans les circonscriptions où ils ont le plus de chances de gagner.
Ouais.
Mais à l'inverse, j'haïs les parachuteux. Fait que je suis scindé en deux là-dedans.
Jocelyne Cazin. Eh où, Jocelyne Cazin?
Non, mais je suis scindé en deux dans le sens que je me dis, ah, Sophie, j'haïs ça, moi, une Mike T qui débarque dans la pelleterie, un Karim Elayoubi qui apparaît dans Chauveau, un Éric Duhaime qui apparaît dans Bellechasse. Mais en même temps, je me dis, faut qu'il trouve un moyen d'être représentant à l'Assemblée nationale.
C'est-tu le maintenant ou jamais d'Éric Duhaime? Parce que là, ça fait une couple d'années là, qu'il est chef sans avoir de personne à l'Assemblée
Absolument.
Nationale.
Absolument. C'est le maintenant ou jamais. Ça va être difficile après ça de vendre l'idée qu'on peut dépasser le 13, 14, 15 % de vote dans ce parti-là. On se maintient là, depuis 2021, depuis 2022 à ces taux-là, qui sont magnifiques par rapport à l'histoire du Parti conservateur du Québec. Éric Duhaime a réussi à remonter ça à 14-15 % dans les sondages, même dans les votes qui se sont exprimés en 2022. Mais il faut qu'il défonce cette barrière-là, sinon ça va lui coller à la peau que ça va rester un parti minoritaire et très, très marginal. L'autre chose pour les parachutés, Jeff... l'important, là, c'est que le député fasse son travail puis qu'il ait à cœur les intérêts de sa région. Moi, je m'explique mal, là, tu sais. Si tu obtiens un poste de représentant aux ventes pour telle entreprise puis que tu représentes l'Est du Québec, mais que tu n'as jamais mis les pieds dans l'Est du Québec, bien, la minute qu'on t'offre le poste, tu vas aller dans l'Est du Québec, puis tu vas aller rencontrer le monde.
J'aime
puis
ça, ton comparatif.
Puis tu vas aller serrer des poignées de main, puis tu vas te rendre compte que, Colin, j'aurais aimé ça grandir ici pour telle raison. Ouais, il y a tel aspect que j'aime moins.
Non, c'est bon comparatif.
Comme n'importe où, quand on déménage dans une vie.
Dans le cas de Karim Elayoubi, bon, oui, c'est un parachuté, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance puis qui pourrait être un jour ministre de la Santé. Fait que j'ai moins de misère avec ça. J'ai plus de misère avec les gens qui ont vraiment besoin de la politique, le chèque, puis qui sont parachutés. Jocelyne Cazin, c'était ça. Elle pouvait rien apporter à la politique. Elle avait besoin d'une job. Puis on l'a envoyé à Québec en disant, bien, Jocelyne essaie de gagner un secteur à Québec. Malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné puis elle était vraiment fâchée. là, elle était sûre et certain que ça allait, que ça allait bien aller pour elle. Ce type de parachuté-là, je suis un peu d'accord avec
Jeff. Oui, mais Yannick, Jocelyne Cazin, là, attends une minute, là, tu me parles de Karim El Ayoubi, médecin. Ouais. Fait que là, t'as-tu le syndrome du sarrau blanc, là, vu qu'il y a un sarrau puis un titre? Là,
non, je pense que
c'est de l'or en barre.
On
mais
a
là...
besoin de gens de qualité en politique, puis issus de tous les domaines.
Ben, une journaliste un qui plus... fouille les dossiers chauds, ouais. là, puis ouais. une journaliste qui n'a pas peur de se mettre dans.
J'ai un peu plus de misère avec les journalistes. Réponses. Les animateurs ouais. de radio, les journalistes, toujours eu de la misère, moi. Ça n'a pas d'affaire en politique.
Ben, moi, ceux qui n'ont pas de misère à se mettre les deux pieds dans la boîte, puis à avoir l'air quasiment fou parce qu'il est le seul à faire la sale job, d'aller chercher des réponses.
C'est quand
y a des
gens qui sont.
Des affaires.
Quand il y a des gens qui sont ministrables, j'ai pas de problème à ce que ce soit des parachutés. Quand c'est des gens que tu as l'impression qu'ils cherchent un chèque, puis que la politique n'aurait pas besoin nécessairement d'eux. C'est mon petit côté où je me dis...
Les parachutistes sont souvent ministrables, par exemple. Je me trompe-tu?
Dans la plus... Ben,
parce que tu veux mettre un gros nom.
Oui, dans la plupart des
cas... On parle de M. El Ayoubi, c'est
partis,
ça. Là.
Les plus petits partis, ils mettent des gens un peu partout là, pour être sûr d'être représentés. Puis des fois, ce n'est pas des gens de la circonscription. OK, maintenant, on a parlé d'Éric Duhaime. Charles Milliard, maintenant. Charles Milliard, je te dévoile mon jeu de cartes. lorsque j'ai entendu parler de lui, personne ne le connaissait à Québec. On m'a dit, Yann, surveille Charles Milliard, il va se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je l'ai eu en entrevue. Effectivement, j'ai trouvé que c'était une personne exceptionnelle, qui avait de bonnes idées, qui avait de bonnes valeurs fondamentales, un gars qui s'exprime super bien. Je trouve qu'il sourit beaucoup trop pour un politicien. Là. D'ailleurs, c'est toujours pas réglé. Il va falloir qu'il fasse attention à ça, parce que même quand c'est des mauvaises nouvelles, il ne faut pas que tu ailles le sourire d'en face.
Mais ce n'est plus son plus gros problème.
Mais c'est plus son plus gros problème. Il m'a dit, dans un Marceau soir, il m'a dit, lorsque j'aurai les clés du Parti libéral du Québec, je vais gérer ça à ma manière. Puis ce que je vois depuis le début, depuis qu'il est chef, c'est qu'il est contrôlé à côté. C'est pas très... j'allais dire quelque chose qui était épouvantable, qui aurait pu me revenir d'en face, mais c'est pas très, disons, alpha, la façon dont il agit présentement. Il y a plus l'air du petit caniche qui va japper, puis qu'après ça, il va se sauver pour revenir en Japon. J'aime pas beaucoup le Charles Milliard que je vois là actuellement. De ton côté, comment ça se passe?
Charles Milliard, je le connaissais avant qu'il devienne chef du Parti libéral du Canada. Il a été à la Fédération des chambres de commerce du Québec, à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, je l'ai connu dans ses activités où il représentait ce lobby, parce que c'est un lobby. C'est un excellent gars de PR. C'est un gars de relations publiques. Et faut distinguer des politiciens. Faut voir les racines de chacun des politiciens. Les racines de Charles Milliard, c'est un pharmacien de formation, c'est un pharmacien, mais il a travaillé en relations publiques. Donc, il est très fort dans, justement, faire des beaux sourires pour faire bonne impression, rassurer les gens, avoir cette image rassurante,
mais
avoir
moi,
les
j'ai
messages
pas besoin de
rassurants.
Ça. J'ai ben besoin d'un gars comme Jeff. Tantôt, ben, là, moi, je parlais sais. D'un sujet qui me tenait à cœur, là, le TAL. Mm-hmm. Tu sais, on a pris un loyer qui était autour de 700 quelques dollars, puis on l'a mis à 1800 piastres. Mais ça, là, quand tu m'entendais parler de ce sujet-là, j'étais en tabarnak.
Mm-hmm. Ben ouais.
Ça venait me chercher dans mes valeurs fondamentales. Comment tu peux faire ça à un être humain? Mais je m'attends à ce qu'un chef de parti, qu'elle soit homme ou femme, quand elle est en sacrement, je veux le savoir. Quand elle n'est pas contente, je veux le savoir. Je veux un être humain.
Ah ouais?
Je veux pas quelqu'un qui est une mascotte d'un parti.
Attends une minute, Yannick, tu dis ça.
Ben, j'ai dit ça de PSPP.
Je le sais qu'il y a plein de monde qui pense comme toi, qui nous écoute. Là. Mais attendez une minute, PSPP, je vais vous virer ça dans le visage.
PSPP est aligné avec ses valeurs fondamentales. Puis quand il n'est pas de bonne humeur, on le sait. Puis quand il est de bonne humeur, on le sait aussi. PSPP, je pourrais faire un Québec-Montréal en discutant avec. Mais Charles Milliard, je suis pas sûr, moi, que je pourrais faire un Québec-Montréal en discutant avec. Ça me gosserait, moi, quelqu'un qui a tout le temps le sourire, même quand j'annonce que j'ai le cancer, c'est moi.
Faut avoir la clarté de s'insurger, de s'indigner face aux injustices quand on est en politique. Je suis d'accord avec toi. Mais quand on s'est insurgé puis on est indigné, on se fait souvent taxer d'avoir mauvais caractère, d'être soupe au lait, ting, ting, ting. T'as quand même dit que Paul Saint-Pierre Plamondon avait des défauts tantôt.
Oui. Il y a plus de défauts que de qualités.
C'est ça. Puis dans les défauts qu'on lui reproche en général, c'est qu'on le dit soupe au lait ou qu'il se choque pour rien ou qu'il se choque facilement. Alors.
Parizeau, t'es-tu sympathique?
Alors, on voudrait que Charles Milliard s'insurge, s'offusque.
Ouais.
Mais quand on regarde. Pierre Poilievre s'offusquer puis s'insurger, on dit ben non, il est ben trop rough. Quand on dit que Paul Saint-Pierre Plamondon s'insurge ou s'offusque,
Stephen Harper. Stephen Harper était tout le temps tout sourire. Ben, pourtant, ça a été le meilleur premier ministre que j'ai eu, moi, des dernières années.
Ouais, mais à ta minute, ils nous ont fait peur avec Stephen Harper. Là. Hey, moi, là, à l'époque où il était en campagne, puis juste avant qu'il devienne premier ministre du Canada, là, autour de moi, j'habitais dans l'Outaouais. Vous allez me dire, j'étais dans des circonscriptions libérales dans ce temps-là. Mais autour de moi, les gens disaient, je quitte le Canada s'il devient premier ministre. Puis tu ouvrais Radio-Canada, puis Radio-Canada, c'était de anti-Harper, au même titre qu'on a connu dans les dernières années.
Mais quand tu parles de la population en général, ce qu'elle peut passer, moi, je te parle de moi. Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a bien des défauts en tant que futur premier ministre.
Mais t'aimerais ça que Charles Milliard se choque comme lui.
Christy de belle qualité, c'est qu'il est aligné avec ses valeurs. Puis quand il n'est pas content, je le sais. Puis bien souvent, quand il n'est pas content, je suis d'accord avec lui.
Ouais.
Mais oui, son attitude, en général, dans la population, peut lui nuire.
Ouais.
Mais moi, je veux un être humain.
Ben oui.
Je veux une Christine Fréchette qui, quand le Québec perd 1 milliard dans un dossier, je veux la voir gueuler puis dire que ça n'arrivera plus jamais puis que tous ceux qui sont responsables de ce fiasco-là, ils vont être au bûcher!
Elle peut pas, c'est elle.
Comment?
Elle peut pas, c'est elle.
Quand je parle des dossiers futurs, ça me prend des êtres humains qui ont les couilles d'aller au micro puis dire la vérité.
Ben oui.
Puis là, on a fait tous les chefs de parti, Québec solidaire... As-tu quelque chose à dire sur Québec solidaire? Parfait. OK. Jacinthe Evarel, maintenant, Max va nous parler de ce qui se passe à l'international parce qu'on avait une signature électronique qui avait été faite, un deal entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Il y avait une rencontre qui était prévue aujourd'hui en Suisse pour prendre des photos, pour livrer des témoignages puis faire des beaux sourires. Et là, finalement, ce deal-là n'aura pas lieu de ce qu'on comprend.
Puis, tu sais, oui, il y avait tout le...
En fait, cette rencontre-là n'aurait pas lieu.
Il y avait tout le protocolaire autour de la signature, mais surtout, ben, il y avait le début des vraies négociations parce que on l'a expliqué souvent, là, mais ce qui a été signé, c'est un protocole d'accord. Fait que c'est comme les bases de, OK, on met ça en place, puis on va jaser de ça, puis on va espérer qu'on va s'entendre. Fait que ces négociations-là, les vrais négos là, devaient commencer aujourd'hui. J.D. Vance devait se rendre en Suisse. Et là, il y a un communiqué qui est envoyé hier soir par la Maison-Blanche qui dit « Les plans pour les discussions techniques à venir n'ont pas été finalisés et la délégation américaine s'est préparée à partir à la première opportunité, mais la logistique pour ces négociations n'a jamais été simple ni prévisible. Pour le moment, le vice-président ne partira pas ce soir. » Donc, ça commence bien mal pour ces premières négociations parce qu'elles sont... reporté. Et pendant tout ce temps-là, ben, t'as Israël aussi, qu'on sait pas trop comment on se place. Là, t'as l'Iran qui continue de tenir certains propos à l'effet que on reste très, très, très prudent. Puis là, on ramène Israël là-dedans. Trump essaye de s'éloigner d'Israël, mais veut pas. Ça fait partie du cœur du conflit aussi, Israël puis Netanyahou. Fait qu'on se demande, OK, combien de temps ça va tenir, ce deal-là?
Fait que là, Jeff, je fais quoi aujourd'hui? Je foule mon char ou j'attends quelques jours?
Je me pose la question, là.
Parce que là, les derniers jours, je mettais juste 20$ en disant ça va descendre à un moment donné. Ils ont réglé ça, la signature électronique, c'est fait, c'est fini. On en est rendu où, Jacinthe-Ève, là? C'est décourageant.
C'est décourageant parce qu'on a probablement aussi mal expliqué cette entente-là que Max vient de nous expliquer admirablement bien, mais je trouve pas que ça a été expliqué comme ça depuis que Donald Trump l'a annoncé lorsqu'il était à Evian. En France, c'est un « memorandum of understanding ». Un « memorandum of understanding », tu l'as bien dit, Max, c'est carrément... C'était les bases en 14 points. C'est un cadre intérimaire en 14 points dans lequel on se disait, bon, pour les 60 prochains jours, on se tient à ce protocole de cadre intérimaire-là. Pour les 60 prochains jours, on va clarifier des choses, on va s'entendre sur des éléments fondamentaux, notamment le programme iranien nucléaire qui est au cœur, je vous rappelle, de ces démarches de Washington d'aller frapper à Téhéran. C'est au cœur de ces démarches, le programme nucléaire iranien. Il y a beaucoup de choses à clarifier de part et d'autre. Et malheureusement, déjà cette entente, quand moi j'en ai pris connaissance, là, je voyais que le langage, l'entente était très asymétrique. Les États-Unis s'engageaient, mais l'Iran, de son côté, promettait de faire des efforts. Donc déjà, il y a une grande asymétrie. Et il y a tout l'argent aussi. Là, j'ai beaucoup lu de chroniqueurs sérieux, d'analystes sérieux mentionnés que Donald Trump capitulait qu'il allait donner 300 milliards de dollars à l'Iran. C'est complètement erroné.
Ouais. J.D. Vance mentionnait que tout ça était faux, là, que les États-Unis n'allaient pas mettre une scène là-dedans.
Non.
Mais qu'est-ce qui est vrai?
Ben non, mais qu'est-ce qui est vrai? Non, mais c'est le biais...
Moi, j'y crois plus.
Le biais de confirmation de certains chroniqueurs, analystes, journalistes, je suis désolée, là, ouais. Mais il y a un biais de confirmation. On haït tellement les États-Unis, on est tellement anti-américains dans nos positions que là, on prend une information comme ça puis on ouais. la déforme.
Est-ce que tu parles des chroniqueurs au Québec ou aux États-Unis?
J'en ai lu au Québec. Il y en a aux États-Unis aussi, mais j'en ai lu au Québec, j'en ai entendu au Québec dire, ben voilà, tu sais, finalement, Donald Trump permet, donne des milliards à l'Iran, c'est pas ça. Il permet que des entreprises privées puissent garnir un fonds de 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran. Et si Donald Trump n'avait pas permis ça, on serait les premiers, ou ces gens-là seraient les premiers à dire, avez-vous vu le dictateur? Il va commencer à s'immiscer dans les affaires privées, ouais. des entreprises privées qui veulent reconstruire l'Iran. Les pauvres Iraniens, il y a des civils à travers ça, il y a des petites familles qui ont besoin d'avoir des infrastructures reconstruites. Et là, lui, il se permet de dire, non, les entreprises privées investiront pas pour reconstruire l'Iran. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est dire, je permets de dénouer les nœuds diplomatiques, économiques et financiers pour permettre à l'entreprise privée de tous les pays du monde de regarnir un fonds de reconstruction pour l'Iran. C'est ça que c'est.
Il nous reste 60 secondes. Je sais que tu vas défoncer pareil, Jacinthe. Je vais aller chercher au plus profond de tes entrailles. Les États-Unis ont-tu gagné quelque chose là-dedans? J'ai l'impression que les États-Unis sont les grands perdants. Les salopards en Iran se sont aperçus qu'il y avait un contrôle sur le pétrole à la grandeur de la planète et que ça foutait le bordel partout. J'ai l'impression que c'est eux les véritables gagnants dans l'entente. T'es-tu d'accord? 60 secondes.
OK. Vous allez juste entendre de ça, que les États-Unis, finalement, ont fait ça pour rien puis que l'Iran a gagné. C'est pas vrai du tout. Quand ta flotte navale est complètement déconstruite, finie, morte, quand ta flotte aérienne est complètement déconstruite, finie, morte...
Ils vont être équipés en neuf, là. Vont être équipés en neuf avec les 300 milliards.
Hey, c'est long reconstruire des infrastructures.
Oui, mais ils refont tout en deux.
Oui, mais c'est
dernier
long.
Cri.
Là. Il y en a. On vient de les faire reculer dans le temps là, de peut-être 10, 15 ou 20 ans.
Ça
là.
Avait été dit. Là, les avant-derniers bombardements, Donald Trump avait dit on les a fait reculer de 100 ans en arrière.
Oui, il exagère. Là. Il aime bien ça, utiliser les hyperboles et les superlatifs. Non, mais on les a quand même fait reculer énormément. Et surtout, on leur a montré, là, je dis « on » comme si je faisais partie des États-Unis, mais Washington et Israël, là, qui est quand même dans le portrait, a montré que le programme iranien nucléaire va devoir être surveillé parce que l'Iran, n'oubliez pas, là, développe l'énergie atomique, enrichit de l'uranium, mais refuse que l'Agence internationale d'énergie atomique sache où se trouvent les sites d'enrichissement d'uranium, où se trouve quelle quantité, quelle qualité, quel grade d'uranium qu'ils détiennent. Et ça, ben, c'est grave. Et là, ben, on vient de voir que Washington et Israël vont reprendre le contrôle à ce niveau-là.
Jeff, 10 secondes.
10 secondes, Jacinthe. Moi, j'y crois pas parce qu'Israël va continuer à bombarder le Liban puis la guerre va continuer.
Jacinthe, 5 secondes.
Israël bombarde le Hezbollah.
Ben, le Hezbollah.
Ah, ouais, mais c'est le Hezbollah qui est une entité terroriste qui se cache au Liban.
Je suis très d'accord avec toi, mais ça fait partie du deal qu'il n'y ait plus d'attaque au Liban sur le Hezbollah. Ça n'arrivera pas, ça.
Là, je veux juste savoir, la semaine prochaine, allez-vous être les deux avec moi en même temps dans le studio? Ça aurait fait un beau
show. Non, mais c'est juste pour ça que je crois pas à l'entente. Tu sais, je veux pas me prononcer si c'est une mauvaise ou si une bonne entente. Ouais. J'ai pas assez de détails, mais j'y crois pas parce qu'Israël va continuer.
Mais l'ensemble des pays du Golfe Persique sont derrière les États-Unis. L'ensemble des pays du Golfe Persique savent à quel point que le Hezbollah, c'est vraiment un gros foutoir qu'il faut défaire. Et l'ensemble des pays du Golfe Persique sont bien contents qu'Israël ait la qualité de renseignement pour pouvoir cibler les membres du Hezbollah et les démolir.
C'est assez, là.
Sauf que dans l'entente, il y a ça. Fait que vu qu'on va continuer à bombarder le Hezbollah, ben l'Iran va continuer.
Jacinthe Varel, t'es avec nous jeudi, vendredi, de 6h jusqu'à 10h.
Ben oui, on fait les matins la semaine prochaine.
Ben, ouais, j'ai hâte de parler avec toi et puis d'échanger. Merci beaucoup d'être passé.
Bye-bye.
Bon week-end. Max?
Ça roule très bien sur la route. Il y a un véhicule en panne toutefois sur la 20 direction est, hauteur de la route Lagueux. Là, mais à part ça, comme je disais plus tôt, il n'y a pas grand monde sur les routes à matin.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la